Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et bienvenue merci d'être à l'écoute de Radio Foot International sur RFI aujourd'hui avec en premier titre de ce magazine, eh bien nous aurons la CAN 2019, une CAN qui doit se jouer au Cameroun, mais le débat reste vif autour des propos tenus au cours du week-end par le président de la CAF, Hamad. Le défi est immense hein, puisque le nombre de participants passera de 16 à 24 en 2019 pour le Cameroun, et alors qu'à Yaoundé on doit feuilleter le nouveau cahier des charges, eh bien l'un des dirigeants de la CAF devrait nous en dire plus sur ce sujet. Peut-être couper court d'ailleurs aux rumeurs. Constant Omari, bonjour.
Bonjour Annie.
Merci d'être dans Radio Foot International aujourd'hui. Vous êtes l'un des vice-présidents de la Confédération africaine de football. Nous parlerons aussi dans la deuxième partie de Neymar. Neymar attendu impatiemment sur les pelouses de l'Hexagone et notamment celle du Roudourou en Bretagne. Mais la nouvelle star du PSG n'a toujours pas reçu d'Espagne le document l'autorisant à jouer dans le championnat de France. Le transfert apparemment est resté en travers de la gorge des Barcelonais. Le comeback de la Première Ligue dès demain soir en Angleterre, un championnat qui passionne aux quatre coins de la planète football, mais qui ne compte pas dans ses rangs les meilleurs joueurs du monde, qui semblent apparemment préférer jouer ailleurs. Pourquoi donc ? Eh bien, nous essaierons de comprendre dans cette deuxième partie, et nous aurons aussi le concours de Carlos Bianchi. Bonjour Carlos.
Bonjour Annie.
Bienvenue dans Radio Foot International. Il y aura aussi Bruno Salomon de France Bleu Paris et Bruno Constant, nos spécialistes de la Première Ligue, et puis Éric Chorin et Philippe Zégraf sont à côté de moi. Bonjour messieurs.
Bonjour Annie.
Bonjour.
Radio Foot, c'est parti. Alors Constant Omari, vous êtes de passage à Paris et on profite donc de ce passage pour évoquer avec vous ce qui se passe à la CAF. Vous êtes l'un des vice-présidents de cette Confédération africaine de football et par ailleurs un président de la Fédération de la RDC. Il y a eu des propos au cours du week-end très importants parce qu'ils ont eu beaucoup d'écho. C'est ceux du président de la Confédération africaine, le président Hamad. Réécoutons la fameuse petite phrase au sujet du Cameroun.
Moi je dis, là où nous parlons, même une CAN à 4 équipes, le Cameroun n'est pas encore prêt. À 4 équipes, ils ne sont pas encore prêts.
À 4 équipes, ils ne sont pas encore prêts, ils doivent être 16, ils devaient être 16 au départ, ils seront 24 en 2019. Est-ce que cette petite phrase était maladroite ? Est-ce que c'était une provocation ?
Annie, d'abord je voudrais vous remercier mon ami Philippe que je n'ai plus revu depuis un certain moment et toute l'équipe sur le plateau ici. Il faut pas analyser d'une manière soustraite le bout de phrase. Il faudrait l'analyser dans le cadre d'un contexte et d'une situation, d'une problématique qui lui était posée. Et ensuite, la réaction du président reprend exactement les informations nous parvenues tous, faisant état par la propre presse camerounaise qui avait réellement problème au niveau organisationnel, au niveau des préparatoires, au niveau des travaux préparatoires liés à cette CAN. Donc, le président a dit, au moment où je suis en train de vous parler, ça signifie qu'il faut le situer dans un contexte de temps. Mais il n'a pas dit que le Cameroun, il a des doutes sur la capacité du Cameroun d'organiser cette compétition.
Ah bon ? Ah ben nous, c'est ce qu'on a compris, en tout cas.
Oui, il l'a dit parce qu'il l'a prononcé. Alors, est-ce que c'est du deuxième degré? Est-ce que c'est de la maladresse? On ne peut pas se baser sur ce que dit la presse d'un pays. Il y a peut-être une presse d'opposition qui est contre la CAN, et un président ne peut pas dire « j'ai lu quelques lignes dans la presse camerounaise ». Ce n'est pas toute la presse camerounaise. Et on ne peut pas, quand on est président d'une confédération, enfin, c'est notre avis, c'est mon avis, Constant Omari, prononcer cette phrase-là. Parce que, et vous l'avez constaté depuis samedi, elle a été prononcée à Ouagadougou, ça fait maintenant une semaine ou presque. Elle a mis le feu, cette phrase. C'est une maladresse de la part d'un haut dirigeant d'avoir prononcé cette phrase.
Écoutez, je pense que il a été même courtois parce que les éléments à notre possession étaient beaucoup plus graves que cela. Mais il ne les a pas mises sur pied par respect. D'abord, un, c'est un État qui est souverain, qui garde toute sa souveraineté, qui a ses problèmes et qui a sa façon de travailler. Nous avons des éléments que s'il mettait sur la table, pouvaient être encore plus touchants. Mais il ne les a pas mis. Il a juste, gros humain, en disant...
Ah, il en a trop dit ou pas assez, alors il ne fallait pas parler.
Vous permettez. Il a juste dit que les éléments, au moment où nous parlons, n'est-ce pas? Cela ne signifie pas. Et d'ailleurs, la preuve, depuis qu'il a fait cette déclaration, au moment où nous parlons, je pense que j'ai plus d'une centaine de réactions. Des Camerounais qui remercient la CAF pour avoir dit cela, parce que depuis qu'il a dit, les choses ont repris à bouger.
Le président de la Confédération, de la Fédération camerounaise de football s'est exprimé sur l'antenne RFI, c'était mardi. On va réentendre la partie où justement il explique comment ils sont prêts à relever le défi aussi, parce que pour eux, le cahier des charges a évidemment changé.
Les déclarations du président Ahmad Ahmad ne sont pas conformes à ce qui est réel. Nous avons été surpris de voir que malgré l'attribution des camps de 2019, 2021 et 2023, la CAF a décidé de faire exécuter ces changements-là. Mais malgré tout, nous n'avons pas voulu jouer les pleurnichards. Nous avons accepté volontairement ce nouveau format. Mais malgré cet accord, nous continuons à recevoir des déclarations qui ne sont pas conformes à la réalité. Il y a lieu de s'inquiéter et donc de croire à ceux qui pensent que cette canne-là, la CAF voudrait absolument nous la retirer.
Sidiki Tombi Aroko, le président de la FECAFOOT. Éric Chorin.
Non, depuis quand, selon vous, Costomari, vous êtes président de la Fédération Congolaise de Football, vous êtes un haut dirigeant de la Confédération Africaine, vous êtes membre de la FIFA, depuis quand un haut dirigeant se base sur des informations parues dans la presse pour tenir ce genre de propos? Parce que si j'en crois le site Africa News au mois de mars, Florent Ibenge n'est plus à la tête de l'équipe nationale de RDC. Vous êtes bien placé pour savoir qu'il y est toujours. Depuis quand on peut se baser sur une information, une rumeur, ce genre de choses pour dire ce genre de choses? Si ce n'est dans le but éventuellement d'aiguillonner, ou alors tout simplement de commettre une maladresse, peut-être en répondant aux questions des journalistes.
Je crois l'avoir dit ici, que nous avons des éléments. C'est par respect et par respect des dignités de tout un État que je ne peux pas vous les étaler. Mais je peux vous montrer un document officiel ici.
Mais des éléments
objectifs. Non, s'il vous plaît, Je peux vous montrer un élément officiel ici du gouvernement camerounais qui vous permettra de battre en retraite tous vos argumentaires. Mais par décence, s'il vous plaît, par décence, il y a des choses que nous ne pouvons pas dire. Si le président l'a dit, il a voulu sensibiliser, donner un coup d'électrochoc pour que les choses puissent reprendre. Il ne faut pas situer cette déclaration-là dans l'appréciation d'une incapacité de tout un État d'organiser. Loin de là, c'est pas, la CAF ne peut pas se situer au niveau des polémiques. Mais seulement, nous pensons que si les choses ont été dites et si les gens ont mal reçu cela, dommage. Mais depuis que cette déclaration a été faite, il y a plus d'une centaine de journalistes camerounais qui nous félicitent aujourd'hui parce que les choses ont repris à bouger. Effectivement, ça signifie qu'il fallait quelque part qu'il y ait quelqu'un qui rappelle aux uns et aux autres qu'ils avaient obtenu l'organisation d'une CAN. Ça, c'est un. De deux, vous permettez. De deux.
Je vous permets, mais une CAN à quatre équipes, voilà. Personne ne peut croire. Vous personne permettez. Ne peut croire que le Cameroun ne peut pas organiser une CAN à quatre équipes.
Non, écoutez.
Ça va, c'est de la provocation.
Non, ça c'est. Écoutez, il y a une façon aussi, il y a ce qu'on appelle la maïeutique. On pousse quelqu'un à sortir ce qu'il a de plus profond, n'est-ce pas? Non, ça peut être aussi de la maïeutique. Il ne faut pas vous situer au niveau des quatre uniquement, vous limiter au niveau des quatre. Mais. L'essentiel, c'est que les choses ont repris de boucher. De deux, il n'y a pas de décision sur chantier pour retirer la CAN au Cameroun.
Ah, ben ça, c'est une information. Le 10 août, le Cameroun est toujours l'organisateur de la CAN 2019.
Ce sont des spéculations.
Alors justement, Constant Marie, pendant les Jeux de la Francophonie, je pense que vous avez eu de la bouche même du ministre des Sports camerounais Bidong Pat la confirmation que le Cameroun accepterait bien d'organiser cette CAN 2024. Donc vous ne pensez pas que tout ce qui a été dit depuis le symposium 2019 à 24. vous ne pensez pas que ça fait beaucoup de bruit, toutes ces déclarations, qu'il faut laisser le Cameroun travailler tranquillement et puis, de votre côté, attendre la visite d'inspection du 20 au 28 août pour, après, éventuellement, donner votre avis. Vous êtes en retard, vous ne l'êtes pas, vous devriez faire ci. Vous ne pensez pas qu'il y a eu trop d'agitation, trop de bruit depuis le comité exécutif de Rabat?
Voilà.
Pour rien, finalement.
Je voudrais d'abord vous donner une précision. Le coup de fil du ministre m'est parvenu le 20. Au sorti de la réunion du comité exécutif. C'est comme pour dire qu'il y a quelqu'un qui l'informait des tas d'évolution de nos travaux. Juste à la sortie, le ministre m'a appelé pour dire, monsieur Marie, nous venons de suivre les décisions prises par le comité exécutif. Je voudrais vous réaffirmer par ma voix que le Cameroun est prêt à s'aligner sur le nouveau cahier des charges. Ce que nous avons tous apprécié. Ça signifie que le Cameroun a affirmé sa volonté, n'est-ce pas? Maintenant, le président, utilisant ce que j'ai dit tout à l'heure, la maïeutique, il donne un électrochoc. Les choses bougent. Je ne pense pas qu'il faille se cramponner sur la déclaration. Il faudrait plutôt savoir quelle est la volonté réelle de la CAF. Est-ce qu'il y a-t-il une démarche pour retirer la CAN au Cameroun? Non, la démarche n'existe pas.
Très bien.
Est-ce que la visite d'inspection... Nous avons d'ailleurs essayé d'apprécier la position de la CAF quand elle dit que, dorénavant, les politiques ne peuvent plus effectuer des visites d'inspection. Nous avons été au Gabon, n'est-ce pas? Moi, j'étais chef de site à Oyem. J'habitais Bitam, 73 km du stade Oyem. Vous avez connu tous les problèmes que nous avons connus là-bas. Mais qui ont fait cette visite? C'était plus des politiques. Quand ils arrivent au comité exécutif, monsieur le président, tout est parfait, tout est bien, tous les sites sont nickel, ainsi de suite. C'est pour cela que nous avons dit, évitons les ambitions aujourd'hui de la CAN. Avec une audience cumulée de 4 milliards de téléspectateurs, veulent que nous organisions une CAN autrement.
Qui fera partie de ce comité d'inspection? Alors, puisque la CAF a dit, on essaiera d'avoir un comité tout à fait neutre, ce ne sera plus le même genre de mission d'inspection qu'avant.
Un cabinet d'audit indépendant et quelques techniciens de l'administration de la CAF, uniquement. Pas de membres du comité exécutif, pas de secrétaire général de la CAF.
Voilà. Monsieur Omari, pourquoi avoir décidé dès 2019 qu'il y aurait 24 participants, alors que en parallèle, on a la FIFA qui, elle, a décidé aussi d'augmenter et de beaucoup le nombre de participants pour une Coupe du Monde, mais qui se donne 9 ans, c'est-à-dire elle se donne jusqu'à 2026 pour un pays qui n'a pas encore été candidat. Là, on a une rétroactivité, finalement.
La différence est simple. La procédure d'attribution des Coupes du Monde au niveau de la FIFA, aussitôt que vous avez été désigné, vous signez avec la FIFA un contrat. Mmh. Ce qui n'était pas la procédure avec la CAF. Ça signifie, si un contrat était signé entre la CAF et le pays organisateur, liant déjà les deux parties sur base de 16 équipes, à ce moment-là, juridiquement, la CAF se trouverait dans des difficultés. Il y a eu des correspondances. Une correspondance entre la CAF et une réponse de la Fédération camerounaise. Ce n'est peut-être pas un contrat. Ça, c'est un. De deux, il y a des ambitions, madame. Nous avons des ambitions aujourd'hui. Si, au niveau de la Coupe du Monde, on prévoit de passer de 32, de 24 à 48, ça signifie que nous devons nous préparer en conséquence. Nous devons nous préparer en conséquence. Aujourd'hui, en Afrique, la dernière CAN nous a démontré qu'il y a des nouveaux pays émergents du football, mais qui n'ont pas eu la chance de pouvoir émerger, tout simplement parce que la procédure organisationnelle des préliminaires empêchait à toute une partie, quand je prends l'Afrique de l'Est, qui n'avait que la possibilité de qualifier au maximum un pays. Alors qu'il y a des pays émergents, quand je vois l'Afrique australe, aujourd'hui quand je vois le Zimbabwe, je vois le Malawi, je vois le Botswana, c'est des jeunes nations. Nous avons décidé de passer à 48 pour permettre à ce que, si 24 nations sur 54 peuvent déjà participer à une phase finale, je pense que ça permettra de tirer vers le haut.
Ce qu'on doit comprendre, Constant Marie, c'est que on peut opérer ce changement de règles alors que l'attribution a déjà eu lieu, parce que juridiquement, on n'est pas attaquable, en fait. Alors qu'au niveau de la FIFA, ce serait le cas.
Nous évitons, nous, plus de juridisme. Nous voyons plus le pragmatisme.
Oui, mais le pragmatisme, est-ce que c'est de mettre en difficulté l'un des membres de sa confédération? Parce que ça aboutit, de fait, à mettre le Cameroun en difficulté.
Le cahier des charges est anonyme. Un cahier de charge, quand nous mettons sur pied les conditions liées à l'organisation d'une Coupe d'Afrique, c'est anonyme. C'est pour cela que vous ne verrez jamais un cahier de charge à la carte. Jamais. Nous avons décidé de relever le niveau qualitatif de nos compétitions.
Quantitatif, en tout cas.
Et même quantitatif. En mettant en exergue, ce que vous ne dites pas souvent, en mettant en exergue les joueurs. Vous avez assisté à la dernière CAN. Quand nous disons qu'il faudrait renforcer la qualité des pelouses, c'est pour qui? C'est pas Ahmad qui va jouer au football.
C'est pour les joueurs, c'est et nous le joueurs. Disons depuis 30 disons, ans sur l'antenne
quand
de
Quand nous disons que la CAN doit s'organiser entre le mois de juin et juillet, c'est pour résoudre l'équation de qui? Des joueurs. Si nous disons que nous faut renforcer les conditions d'accueil des joueurs qui sont logés en priorité, ce sont les joueurs, ce sont eux qui donnent, n'est-ce pas? Quand nous disons qu'il faudrait renforcer les conditions hospitalière, c'est-à-dire sur le plan sanitaire, des sites organisationnels. C'est pour les joueurs, ce sont eux qui sont victimes des blessures ci et là. Est-ce qu'il faudra attendre une blessure pour acheminer par hélicoptère un joueur?
Constant Marie, ça a été fait au fil des années, depuis fort longtemps, à la Confédération africaine. Vous avez été l'un des hommes de Issa Hayatou pendant très très longtemps. Cette CAN a progressé, on a vu le nombre d'équipes, on a vu les infrastructures routières, hôtelières, les stades, les terrains d'entraînement, les conditions de confort des joueurs ont été augmentées. Vous l'avez déjà fait à l'époque, vous allez peut-être encore le faire et c'est très bien, mais ne dites pas que ça va commencer à être fait à partir du moment où Monsieur Hamad a été élu. Je n'accuse pas
non,
du tout, mais...
Philippe.
Non, mais ça, vous avez toujours pensé effectivement aux joueurs. Vous y penserez peut-être plus maintenant, mais... Ça fait, j'ai fait ma première CAN en 86, il y a eu un énorme changement depuis 30 ans.
Philippe, il faut se situer dans une dynamique évolutive.
Mais je suis d'accord avec vous.
Non, la dynamique évolutive veut que les choses puissent changer. Comprendrez-vous qu'il y ait une nouvelle gouvernance, mais qui ne puisse pas imprégner sa politique? Mais cette gouvernance a été élue sur base de quoi? D'un programme. A été élue. Si quelqu'un qui a eu 34 voix sur 54,
bien sûr,
ça signifie qu'il a été porté massivement parce qu'il a des idées qu'il défendait, n'est-ce pas? Et que maintenant, ces idées font partie de quoi? Ces idées, on ne peut pas cracher sur ce qu'on a adoré hier. Mais nous disons toujours que ce que nos aînés n'ont pas fait que du mauvais. Nous prenons cela comme étant une très bonne étape. Ils ont amené la CAN au niveau qui était la leur, en fonction de leur environnement, en fonction de leur capacité, en fonction des conditions financières, ainsi de suite. Mais nous disons qu'aujourd'hui, puisqu'il y a changement, ce changement ne peut pas se situer dans la stabilité, mais il faut qu'il y ait une certaine continuité, une évolution.
On est bien d'accord.
Donc, il faut situer cette action dans une dynamique d'évolution. Auquel cas, ça n'aurait pas été possible de faire ce changement. Il fallait rester et voir les choses continuer à se faire.
On parle de CAN 2019. Un petit mot sur les CAN 2021 en Côte d'Ivoire, 2023 au Guinée, qui ont donc été attribuées en même temps que celles de 2019. On avait l'impression qu'elles semblaient remises en cause par la nouvelle direction. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui si oui et sur quelle base, ou alors non? Parce qu'on a entendu le président ivoirien Alassane Ouattara, le chef de l'État, dire fermement la semaine dernière, nous l'organiserons et tout seul cette CAN 2021. Alors, où en est-on sur ce plan-là?
Voilà. On a donné un coup de pied dans une fourmilière en mettant sur pied un nouveau cahier des charges. Il est tout à fait normal que ceux qui avaient obtenu l'organisation des prochaines CAN puissent s'inquiéter, chercher à savoir si ils seront en mesure de l'organiser. Et je situe la déclaration du président de la République que j'ai fallu par ailleurs... prendre la République ivoirienne dans ce cadre-là. Ça signifie que personne ne sera épargné. C'est question d'un cahier des charges et que tout le monde fasse un effort pour pouvoir le faire et ensuite voir. Vous savez, chers amis, il y a beaucoup de choses que nous ne disons pas parce que la CAF ne veut pas s'ingérer dans la politique. Mais la jeunesse africaine, après 60 ans d'indépendance, mérite mieux. Elle mérite mieux aujourd'hui. C'est une jeunesse qui a un potentiel énorme en matière footballistique. Aujourd'hui, vous savez, vous avez couvert plusieurs CAF, vous avez suivi les différentes évolutions. Pourquoi ne pas tenir compte de ces évolutions? Pourquoi ne pas leur donner la possibilité aujourd'hui de bénéficier? Si nous disons aujourd'hui qu'il faudrait un minimum de 20 caméras pour avoir la meilleure image en haute définition et mieux vendre nos compétitions, c'est l'avantage de qui?
Constant Omari, est-ce qu'on peut pas quand même être d'accord sur le fait que cette phrase, même si elle a aiguillonné les Camerounais, était pour le moins malheureuse en termes d'image, ne serait-ce que l'image que le football africain essaye de donner à travers le monde par rapport à sa crédibilité quand on s'attaque finalement à l'un des membres de sa confédération. Est-ce qu'on peut pas la regretter? Est-ce que vous, personnellement, vous ne la regrettez pas quand même?
Non, je ne pense pas. Écoutez, moi je pense que, je le dis, pour avoir été dans le secret de la connaissance de l'environnement aujourd'hui,
mais c'est le secret. Vous ne pouvez pas nous en parler.
Je ne peux pas le regretter parce que tout simplement, je sais de quoi il retourne exactement.
Merci beaucoup, Constant Marie, d'avoir été dans Radio Foot International pour nous confirmer donc qu'a priori, cette CAN, vous ne voulez pas la retirer au Cameroun pour 2019. Et évidemment, on y reviendra puisqu'on suivra la commission qui ira en inspection du côté du Cameroun. C'est la fin de cette première partie de Radio Foot International. On se retrouve juste après les informations et nous continuerons à parler de football. On parlera, eh bien, de Neymar et aussi de la Première Ligue.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Deuxième partie de Radio Foot International, toujours sur RFI et toujours eh bien avec nos invités, Carlos Bianchi, Constant Omari est resté, il a envie de parler football aussi, d'autre chose que le football africain, donc on lui a permis de rester dans ce studio. Éric Chorin est encore là et puis il y a Bruno Salomon cette fois et Bruno Constant, bonjour messieurs.
Bonjour Annie.
Et bienvenue dans Radio Foot, puisque on est quand même en retour de vacances, on reprend le rythme ici aussi du côté de Radio Foot avec un petit compte à rebours, non ? C'est pour vous ça, Bruno Salomon. Oui. Vous vous doutez ce que c'est ?
Oui. Hein ?
Le décompte qui se poursuit, parce que Neymar a signé il y a tout juste une semaine, mais va-t-il enfin jouer en Ligue 1 ? Alors c'est la question qu'on se demande, parce que ce fameux CIT, Certificat International de Transfert, nous en tout cas, on voit qu'il suit toujours le tic-tac, alors que Neymar, il a raison, il en profite.
Tous les garçons sont beaux à Saint-Tropez.
Vous savez que c'est plus le genre de musique ça, qui passe à Saint-Tropez.
Alors, il n'était pas né, loin d'être né. Mais c'est la musique du gendarme à Saint-Tropez quand même. Oui. Ça peut vous amuser, ça vous parle en tout cas. Il était à Saint-Tropez, c'est bien amusé durant le week-end. Il
s'est 48 heures avec ses amis.
Plaisir de la France grâce à son petit jet.
Vous serez où dimanche d'ailleurs ? Au Rodourou ou à Saint-Tropez ?
Au Rodourou, effectivement. D'accord. À Rodourou d'ailleurs.
Ah, on dit à Rodourou. C'est le quartier ?
Oui.
D'accord.
Voilà.
Neymar y sera-t-il, Bruno?
Écoutez, on va être très clair. On en a discuté avec Bruno il y a quelques minutes. J'ai raccroché avec le Paris Saint-Germain il y a peu plus tard que une petite heure et demie. Il y a quelque chose qui me gêne, moi, c'est qu'à première vue, c'est pas une semaine le décompte pour le CIT, c'est 15 jours. Au service juridique au Paris Saint-Germain, on est très calme, puisque de toute façon, à première vue, les Espagnols peuvent encore faire durer le plaisir 8 jours de plus. C'est une situation absolument scandaleuse de la part d'un club qui se dit d'avoir 140 ans d'histoire, mais ils ont élu une petite mémoire, et ça fait quand même un peu l'ex qui se fait plaquer, qui est en train de brûler tout ce que vous voulez, et qui est en train de mettre le bazar. Ils sont en train de se comporter avec Ousmane Dembélé, le Barça, d'une façon idem. Voilà, ils sont en train de faire la même chose un peu que le PSG avec Neymar. Bref, il se passe des choses du côté du Barça. Je balayerai un petit peu devant ma porte. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à première vue, on peut ne pas voir Neymar du côté de Guingamp. Et il va peut-être falloir attendre un petit peu. Juste pour la petite anecdote, du côté de Guingamp, c'est de la folie furieuse. Il y a eu plus de 250 demandes de journalistes. C'est un tout petit stade très joli. Très sympa, belle
80
ambiance.
80 places de journalistes.
Voilà, il n'y a que 80 places, vous imaginez, il y a plus de 200
demandes. Il y a des
envoyés
spéciaux de la chaîne TV Sport, du Brésil, qui racontent le village, 7000 habitants pour 18000 places dans le stade. Mmh. Et puis, effectivement, les files d'attente, et partout, c'est marqué complet.
Guingamp demande surtout aux gens d'arrêter, parce qu'en fait, les gens se sont dit, on peut se faire un peu d'argent avec ça. Donc, en fait, ils sont tous en train de revendre leur place du jour.
C'est dommage, parce que ça va gâcher la fête, en fait.
Ouais. Excusez-moi.
Oui.
Carlos.
Oui, Carlos.
J'ai des informations. De Cancol, ils n'y sont pas arrivés, les 222 millions, dans le compte de Barcelone.
Ils ont le chèque.
Le chèque, c'est pas l'argent.
On est d'accord.
Excusez-moi.
Carlos.
Un chèque, c'est un chèque, et l'argent, c'est l'argent.
Carlos, qui est en train de faire le Barça, non. C'est de faire six. Ils veulent absolument avoir un à deux joueurs à présenter aux socios. C'est tout ce qu'ils sont en train de faire. C'est qu'ils se sont fait avoir comme des bleus. C'est le casse du siècle. Et là, ce qu'ils ont, ils n'avaient pas de solution. Donc ils cherchent Dembélé et Coutinho.
C'est pas fait avoir dans la vie.
Il faut être beau perdant. Et là, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir un joueur ou deux à présenter aux socios pour dire c'est bon, maintenant on peut lâcher Neymar. Mais je trouve quand même que la situation est ubuesque, elle est pas terrible. Le chèque, ils l'ont pris, il va être encaissé, ils l'auront l'argent, ils vont pouvoir se payer un Dembélé à 100 ou 150 millions, ils vont pouvoir payer un Coutinho à 120 millions d'euros. Donc voilà, ce que je trouve, c'est que c'est petit.
Bruno, ça c'est un journaliste qui suit le PSG, mais un dirigeant, comme Constant Omari, par exemple, président de la Fédération Congolaise de Football. Tant que l'argent n'est pas dans les caisses, il n'est pas là, en fait.
Tu vends une voiture. Hein ? D'accord ? Je te donne un chèque, mais tu me donnes la voiture ?
Sur une vente, ça se passe comme ça.
Mais le PSG a pas volé.
Attends, l'encaissement.
Ce que je suis en train de voir de la part de Barcelone, c'est que tout joueur qui arrive. Di Maria est venu tout de suite. Voilà, il a été transféré. Le transfert a été fait directement avec Manchester. Mais là, on a en plus une espèce de relanc qui est pas très agréable à sentir.
Comprendre.
C'est de dire, attendez, on va voir la tête du chèque.
Il faut comprendre les Barcelonais. Il faut les comprendre. Tu viens de les prendre un très bon joueur.
Quand peut-être voir le meilleur.
Il paraît qu'ils vont mieux jouer sans lui.
Le meilleur, c'est Messi encore.
Hein? Ah oui, mais là, on va faire débat.
Bon débat. Il va être lui le meilleur.
Carlos, Vicente Del Bosque a dit qu'ils vont mieux jouer sans Neymar, hein, le Barcelone.
Ah oui?
Il a déclaré ça. Constant, Marie, est-ce qu'on en a beaucoup parlé en Afrique de ce transfert mirobolant de Neymar?
De toute façon, vous savez que le football français, il est suivi dans beaucoup de pays en Afrique. Et à fortiori, quand il s'agit de Neymar, qui avait pas mal de supporters de Barcelone derrière, je crois que tout le monde en parle.
Et ils vont le suivre au PSG?
Il y a encore des deuils. Les gens ne savent pas d'abord lever leur deuil.
Ah ben voilà.
Il y a des deuils. Moi, j'ai ma propre grande sœur qui m'a dit qu'elle était en deuil.
Oh ben vous voyez, vous.
Avec le départ de Neymar.
Finalement, il y a des supporters qui aussi portent le deuil, qui sont moins impatients que vous.
Neymar a été sifflé lors du match amical qui a été fait par le Barça il y a pas plus tard qu'il y a deux jours.
Contre Chapecoense. Ouais,
effectivement. Mm-hmm. Et voilà, je trouve.
Oui, c'est petit. Pas. Ça, c'est. Voilà. On a vu
il
des petites affiches.
Donné pendant 4 ans,
mais les supporters, il faut les comprendre.
Alors, oui, mais l'attitude des dirigeants.
Écoute-moi, tu veux que je te raconte quelque chose?
Ah, moi, je veux. Quand Carlos me parle,
j'écoute. J'ai joué 4 ans au stade de Reims. D'accord? Hein? 67. Troisième meilleur buteur de France, deuxième d'Europe. D'accord?
Mm-hmm.
Premier match que je vais jouer au stade de Reims, il y avait un défenseur central belge. Il m'a donné un coup incroyable. Je suis allé le renvoyer. D'accord? 10 minutes plus tard. Je me suis fait siffler par le stade. Après Copa, je sais pas, et Fontaine, je sais pas combien de joueurs, ils ont été si forts que moi, là-bas, à Reims. Le supporter, il est comme ça, il faut le comprendre. Tu crois pas que. Alors, ici, ils sont fait siffler à Di Maria.
Ah ben, ils ont sifflé quelques-uns.
Et c'est un joueur de leur club. Ronaldo, il s'est fait siffler au Real Madrid.
C'est pas faux.
En tout cas, les joueurs, eux, ils sont très impatients. Ceux qui sont dans l'équipe de En avant Guingamp et En avant Jimmy Briand.
Que ce soit Neymar, après, on a vu que c'est 11 étoiles qui jouent, donc voilà, c'est une de plus. Et on sera prêt, on sait les accueillir et on espère faire un beau match pour faire honneur à la Liga.
Avec ou sans Neymar, il y aura un beau match.
Il y aura un beau match. Après, derrière, le Paris Saint-Germain, sur les deux premières rencontres, est un Paris Saint-Germain avec quelques à-coups. Moi, il n'y a qu'un joueur pour l'instant qui me régale. Finalement, c'est pour la recrue poisson pilote pour Neymar, c'est Alves.
Dani Alves.
Ses deux premières prestations sont monstrueuses. J'adore ses fins de match en fait. J'avais jamais regardé une fin de match de Dani Alves comme ça. En fait, il finit encore plus fort. Il fait encore plus mal à son couloir. Il est encore plus dans le duel. Et je pense que c'est ce qui manquait quelquefois au Paris Saint-Germain. Après derrière cette équipe-là du PSG, attention à Guingamp qui a fait un bon démarrage aussi, a fait des bons matchs de préparation. Et puis je rappelle que, alors par contre dans la tête des joueurs parisiens, ça s'endormira pas du côté de Guingamp parce que l'an dernier il y a une humiliation, il y a eu une défaite 2-0 qui a fait très mal à cette équipe. Donc déjà
très mal au titre surtout.
Effectivement, non mais c'est des points qui manquent et ils en ont laissé du côté de Guingamp. Donc attention à cette équipe de Guingamp avec un ancien de la maison, Antoine Comboiré, qui attend bien sûr avec impatience son ancien club qu'il aime toujours autant.
Encore un guerrier.
Une dernière question à ce sujet, Bruno, comme vous êtes beaucoup dans le milieu du Paris Saint-Germain, il y a beaucoup de rumeurs autour de Kylian Mbappé, que le Paris Saint-Germain pourrait aussi avoir envie d'aligner dans son équipe. Alors après, on se dit qu'il y aura vraiment plus que 11 étoiles sur la pelouse. On parle de 150 millions d'euros. Il y a un fair play financier qui existe. Déjà, on se demande comment ça va être pour cette équipe parisienne qui s'était faite punir il y a quelques temps. Il pourrait l'acheter, Kylian Mbappé?
On rappelle juste pour le fair play financier, les 222 millions d'euros vont être étalés. C'est par rapport à la durée de votre contrat. Donc déjà, ça veut dire que c'est sur 5 ans, donc 45, et ça rentre dans notre fair play financier. Après, il y a la masse salariale, effectivement. Donc il va falloir dégraisser. Donc déjà, départ.
Vous faire rentrer plus d'argent.
On fait rentrer des sponsors. De toute façon, ça vous fait rentrer des sponsors, Neymar. C'est aussi le but. Vous avez le départ qui est quasiment acté de Serge Aurier. Normalement.
Du côté de Manchester.
Voilà. le site ball.com annonce un accord pour 5 ans. Il y a juste un problème, c'est qu'il lui faut un permis de travail. Et je vous rappelle que sa sanction via la justice
il
française...
Il n'avait pas pu aller jouer en Angleterre, on s'en souvient l'année dernière.
Il y a la même problématique. Donc, ils sont en train de faire des négociations avec les services juridiques anglais, avec la justice anglaise, pardon. Vous allez avoir le départ de Lucas. Ça fait 2 fois qu'il est en tribune, 2 fois qu'on lui dit tu montes dans les gradins, tu n'es même pas remplaçant. Lucas, à première vue dans sa tête, c'est fait. Ben Arfa, Krikoviak, Rezé, mais lui, il faut carrément le donner et le mettre ailleurs. Et ensuite, vous avez encore un garçon comme Blaise Matuidi.
Il valait tout.
Non,
mais c'est...
Non, Carlos, c'est lui
qui est content, t'as oublié. Dassler, il est très content, lui.
Draxler, effectivement, mais lui veut rester pour voir ce que ça donne sur une saison, pour voir... pour être au contact de ce qui se fait de mieux à son poste.
Et justement,
mais la liste que je te donne, c'est pas une liste comme ça. Hein.
Et c'est justement la saison de qui va lui donner la possibilité de jouer la Coupe du Monde ou pas.
Effectivement.
Mm-hmm. Il vient d'être champion d'Europe, lui. Hein.
Et il avait le brassard.
Le brassard, c'est très important.
Le brassard de capitaine.
Attention. Hein.
Et juste pour Mbappé, il y a quelque chose qui est assez rigolo, qui est en train de se passer, mais ça après Bruno Constant m'a donné un peu l'explication, mais... Du côté de Monaco, comme du côté du PSG, les contacts presse, sources et autres communications commencent à nous appeler. J'ai eu un coup de fil aujourd'hui pour dire « Non mais Mbappé, en fait, non mais vous êtes trop emballé, il se passe rien. » Il se passe rien. Oui, il y a des contacts.
Donc ça veut dire qu'il se passe quelque chose ?
Ils sont en train d'écarter, en fait. Ils sont en train de... Et du côté de Monaco, ils sont en train de faire la même chose. Ils sont en train d'appeler certains journalistes pour leur dire « Non, mais en fait, il se passe rien, il n'y a pas de contact. » Donc je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'on leur demande de faire un peu d'air et à Vassiliev et à Al-Khelaïfi et à Antero et à Mbappé, au clan Mbappé pour se poser
négocie.
Tranquillement. Voilà, mais en tout cas, le message qui nous est fait passer depuis ce matin, c'est de nous dire non, mais il se passera rien sur Mbappé, il faut déjà on pourra pas rentrer dans les clous avec autant.
Il peut pas se passer quelque chose pour tout le monde, si se passe quelque chose pour Dembélé, il peut pas se passer quelque chose pour Mbappé, du coup c'est ça aussi.
Non, il y a peut-être l'histoire de l'UEFA aussi, de calmer un peu par rapport à l'UEFA, le fair play financier, intéresser un petit peu quelques semaines et revenir à la fin du mercato, on sait que les clubs qui s'intéressent à lui, notamment le Real de Madrid, il y a Manchester City apparemment qui est très très chaud et que le club Mbappé, même s'il y a une préférence pour le PSG, son club de cœur, de sa ville, etc. À Manchester City, ça, la balance est en train de pencher un tout petit peu aussi, parce qu'il y a Mendy qui est là-bas, parce qu'il y a un entraîneur comme Guardiola, parce que la Première Ligue pourrait être aussi, pas un tremplin, mais une étape avant de rejoindre le Real Madrid qui est son club de cœur. Ce qui peut expliquer aussi que le Barça, même s'il était venu frapper à la porte, j'ai du mal à imaginer Mbappé aller signer au Barça. Donc il y a pas mal de paramètres qui feraient que voilà, calmer un petit peu tout ça.
Kylian Mbappé, il est aussi déjà connu pour vous, Constant Omari ?
C'est une pépite, d'or. Vous savez, moi, je l'ai vu, j'étais à Tanger lors du match de Paris Saint-Germain Trophée des champions. Et j'examine la touche des joueurs. Quand j'ai vu la touche de ce garçon, c'est une pépite d'or.
Très jeune encore.
Très jeune. Il faut lui donner du temps pour qu'il atteigne une certaine maturité et puis le vendre à sa juste valeur. Mais si on veut
juste valeur à notre époque,
voilà,
on sait plus
si,
ce que c'est.
Si on veut le transférer aujourd'hui, ma crainte, c'est qu'on puisse le casser avant qu'il ne puisse exploser réellement.
C'est le danger pour Kylian Mbappé, Carlos Bianchi.
Moi, je le dis déjà quelques mois ici.
Il faudrait qu'il reste une année à Monaco.
Lui, on peut surtout la Coupe du Monde l'année prochaine.
Oui, mais ils ont dépeuplé Monaco.
Parce que si lui vient à Paris, tu crois qu'il va jouer ? Qu'est-ce que tu vas faire avec Cavani ? Qu'est-ce que tu vas faire avec De Maria ? Tu vas avoir une ambiance extraordinaire, très belle. Hein ? Parce que c'est la Coupe du Monde dans un an. Ils sont tous des internationaux. Ils sont des champions d'Europe, De Maria. Hein ? Il était champion d'Europe déjà avec Real Madrid. Tu ne peux pas le laisser sur la touche. Hein ? C'est pas facile, même si tu veux le mettre dehors.
Sur le cas Mbappé, une chose est sûre, c'est que...
Il y a une précipitation.
Alors, Nasser Al-Khelaïfi et Unai Emery et Antero aiment l'histoire du... jeune francilien, donc il est de Bondy, formé à Bondy, etc. Il a fait le bon choix de carrière de ne pas venir au centre de formation du PSG, mais d'aller à Monaco pour se former. Mais il vous aimerait le faire revenir parce que il y aurait la star Neymar, et puis il y aurait la star des jeunes, qui adorent, c'est vrai qu'il pue le foot, il est extra, en plus dans son discours, il est frais, et ils aimeraient le faire revenir. Et c'est le discours qu'ils tiennent au téléphone, puisque déjà Emery l'a appelé une fois, et en lui disant, ce serait bien que tu reviennes chez toi, ce serait bien que tu reviennes dans le stade qui te faisait rêver quand t'étais gamin. Voilà, ils essaient de jouer cette corde-là. Après, je rejoindrai Carlos, est-ce qu'il peut pas y avoir un accord entre Monaco et le PSG de se dire ok, on se touche pas pendant une saison.
Tu viens de dire quelque chose que tu dis qu'il est assez clair, Mbappé, quand il parle. Il aurait dû dire, ça fait un mois, monsieur, je reste à Monaco.
Oui, mais il a des doutes.
L'année prochaine, c'est la Coupe du Monde. Ce qui m'intéresse à moi, à être à la Coupe du Monde. Et on verra après. J'ai 19 ans.
Oui, mais Carlos,
ça montre bien qu'il hésite. Ça montre bien qu'il hésite.
Mais tu peux faire hésiter. Alors, il n'est pas tellement clair dans sa tête.
Mais pourquoi, pourquoi il hésite? Parce qu'il voit tous ses copains et tout ce qui faisait la force de Monaco, qui est parti, et qu'il voit que Monaco recrute. J'ai rien contre Rachid Ghezal, mais c'est pas non plus.
Silva. Ta confiance en tes moyens. Comme lui, il doit avoir. Je resterai tranquille, tu sais, avoir 19 ans et les qualités qu'il a, lui.
Ah bah oui. Et puis surtout, c'est une manière de se mesurer à Cavani, de se mesurer à Neymar aussi.
Je laisse venir l'année prochaine, après la Coupe du Monde.
Une petite aparté? Une petite aparté, messieurs. Constant Marie appréciait le toucher de balle de Kylian Mbappé. Je suis sûr qu'il va apprécier le toucher de balle de Paul Biya, le président camerounais qui recevait les médaillés africains camerounais des Jeux islamiques et des derniers Jeux de la francophonie. Peut-être qu'il vous a entendu. La CAN 2019, c'est déjà demain, il dit. Le Cameroun sera prêt le jour dit. J'en prends l'engagement. Ça doit vous faire plaisir.
Tout est à son honneur et j'apprécie à sa juste valeur l'information que venait de nous donner sur le plateau ici. Vous savez, notre objectif, c'est d'avoir une belle CAN. C'est une belle fête. Nous ne voulons pas la gâcher. Donc, que cette émission constitue un peu la fin de toute cette polémique et que les gens regardent tous dans un même sens, dans la même direction, que nous nous préparions les uns les autres pour avoir une belle CAN.
À 24 et pas à 4.
Bien sûr. Hein.
C'était le but, alors. Premier League is not easy street. Oh, that is incredible! It's Ibrahimovic! Brilliant! That's brilliant! Quite hard playing it is. Oh, God! Closing in! Yes! All hell, the Chelsea champions! Big Ben qui est prêt à donner le coup d'envoi de cette première ligue qui débutera demain. Ce sera Arsenal-Leicester, hein, les Gunners qui ont échoué, on se souvient, au pied du podium européen, puisqu'ils ne joueront pas la Ligue des Champions cette année. Ils étaient cinquièmes, et puis les Foxes, champions malmenés l'an dernier, ils n'ont fini que 12e alors qu'ils avaient été champions donc l'année d'avant. Cette première ligue, en tout cas, c'est le championnat le plus suivi au monde, mais il y a quelque chose qui nous intrigue, Bruno Constant. On a l'impression que les meilleurs joueurs du monde n'y sont pas. On a les meilleurs entraîneurs parce qu'on a Pep Guardiola, José Mourinho, Antonio Conte, Rafael Benitez ou encore Mauricio Pochettino, hein, qui termine deuxième de la première ligue depuis 2 ans. Par contre, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Lewandowski, Aubameyang, Cavani, ils jouent pas en Angleterre.
Mais c'est vrai, et c'est un des aspects. Quand il y avait l'explosion des droits télé en Angleterre, on avait dit il y a de l'argent maintenant, les championnats les plus riches, les joueurs vont revenir. Ils sont parvenus. Ensuite,
le plus connu, c'est quoi? C'est Agüero.
Oui, Agüero, Diego Costa, Hazard. Il y a quelques-uns, Alexis Sanchez. Quand les entraîneurs s'étaient arrivés, qu'on a vu revenir Mourinho, qu'on a vu arriver Jurgen Klopp, arriver Guardiola, on s'est dit ça y est, c'est le championnat des grands entraîneurs, donc les grands joueurs vont revenir. On est en 2017 et on a parlé de Neymar, et moi je trouve que on en a pas parlé parce que c'était normal, c'était le PSG, c'était français, mais en Angleterre, les grands perdants, c'est les clubs anglais. On avait toujours dit si un grand joueur quitte le championnat d'Espagne, quitte le Barça et le Real, un Messi, un Ronaldo, un Neymar, il faudra qu'il arrive en première ligue parce que c'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui ont les grands entraîneurs. Qu'est-ce qui est arrivé? Neymar a pas signé ni à Manchester City ni à Manchester United. Donc c'est une énorme claque pour les clubs anglais qui sont un petit peu tous en retard au niveau du mercato, à part peut-être Manchester City qui a fait beaucoup d'efforts, qui a dépensé énormément,
230 millions,
mais qui a bien avancé sur ses dossiers. En dehors évidemment d'Mbappé s'ils arrivent à l'avoir, mais tous les autres clubs sont quasiment à l'arrêt. On parle de Tottenham qui a toujours pas recruté, on parle d'Arsenal qui a toujours pas fait sa révolution, on parle de Chelsea qui n'a fait que remplacer les joueurs qui sont partis, et pour l'instant tout le monde est un petit peu à la traîne.
Constant-Marie ?
Moi je pense qu'il y a une autre explication. Il faut voir la philosophie du jeu anglais par rapport à la philosophie du jeu français ou espagnol, ou même italien. J'ai l'impression que beaucoup de joueurs, les grands joueurs, ont peur d'affronter cet engagement physique maintenu du début à la fin de la compétition, qui est le championnat anglais. Et ils préfèrent un championnat où vous avez des replis. Parce que observer la vitesse de jeu du championnat, la vitesse moyenne de jeu d'un match du championnat anglais par rapport aux autres, vous verrez que la vitesse moyenne en Angleterre est très élevée. Observer les ouvertures et l'engagement physique dans le championnat anglais, vous verrez qu'on vous exige beaucoup. J'ai l'impression que pour se préserver, beaucoup de joueurs préfèrent jouer ailleurs. Ils gagnent mieux aussi des bons salaires, mais en se préservant.
Ils se fatiguent moins.
C'est sûr que Neymar, pour lui, c'est plus facile ici qu'aller en Angleterre. Ça, c'est sûr, parce que Paris va gagner le championnat avec 6 points d'écart. Je te le dis maintenant, comme ça, t'es tranquille.
6 tranquille, ouais, ça va. Merci, Carlos.
Tranquille. Mais je dis, mais la question, c'est, tu viens de dire quelque chose. Mais ces grands joueurs, pourquoi ils vont pas là-bas? Peut-être que Guardiola, ça l'intéressait pas Neymar. Peut-être que Mourinho, ça l'intéressait pas Neymar.
Si,
ça l'intéressait pas, peut-être.
Non, Manchester United, ça fait très longtemps qu'ils sont sur Neymar.
L'an dernier, ils ont essayé.
Ils ont essayé, c'est tous les ans. Manchester City, depuis 2-3 ans, ils essaient, leur grand rêve, c'est de faire venir Messi après le jour où il quittera Barça.
Oui, mais Neymar, ça fait 2-3 ans, c'était une chose. Maintenant, l'envie, peut-être qu'il avait marre de Barcelone, il voulait s'en aller, et à ce moment-là, il aurait bien pu se mêler dans la dispute pour avoir Neymar.
Pour ce qui est de Manchester City, ils ont essayé.
Manchester City ou
c'est Manchester City et Manchester United.
Oui, mais apparemment, de ce que dit Constant Omari, c'est pas pour une raison d'argent, justement. Ça peut être aussi pour une raison de jeu. C'est pour ça.
Mais qu'est-ce qui fait rêver un joueur de foot? Et ces grands joueurs de foot, c'est la Ligue des Champions.
Bien sûr.
Quels sont les résultats des clubs anglais sur la Ligue des Champions? Finalement, ceux qui nous ont fait un peu rêver l'année dernière en Ligue des Champions, c'est Leicester qui nous a fait des petits coups, que c'était sympa.
Mais Neymar,
il sait qu'il va pas aller gagner la Ligue des Champions avec Manchester City. Le PSG, on peut leur cracher dessus, tout ce qu'on veut, mais ça fait cinq ans qu'ils disent, alors, je rappelle que Chelsea a mis 10 ans.
Qui passe pas l'écart,
Chelsea a mis 10 ans pour la gagner sa Ligue des Champions. Donc, on est qu'à moitié du guet, là, pour le chemin. Mais ce qui est sûr, c'est,
ces dernières saisons,
ils ont une priorité, c'est leur championnat.
Il y a aussi l'incertitude de pas la disputer. Parce qu'aujourd'hui, vous signez à Liverpool ou Arsenal, vous êtes même pas sûr de jouer avec des champions.
Eh oui.
Donc effectivement,
Manchester United est passé par le trou de
parce qu'il y a 5-6 équipes qui sont irréversibles, ouais. Hein. Ils sont au même niveau. Ici, Paris, tu es sûr, parce que le championnat, il est...
Moi, je croyais que c'était la cuisine anglaise qui faisait
problème. Non, ça, c'est pas beau. On va avoir des problèmes avec les Anglais, maintenant.
Elle s'est améliorée.
Et l'essence pour le petit avion, il coûte plus cher là-bas qu'ici. Oui, c'est ça aussi.
Ils avaient quand même acheté Paul Pogba l'année dernière. C'était le joueur le plus cher. Ils ont quand même beaucoup dépensé. Hein. Déjà 450 millions d'euros durant ce mercato. On a quand même un président de la Ligue de football anglaise qui a beaucoup d'humour. Humour anglais, parce que Richard Scudamore, il a dit, en fait, je suis heureux que Neymar ne soit pas venu en Angleterre, parce qu'il serait venu avec l'envie de repartir. Il n'est pas très sincère.
Ben non, évidemment, surtout Richard Scudamore, il veut un grand spectacle, c'est lui qui parlait d'une 39e journée aux quatre coins du monde, enfin, ils veulent du spectacle, ils l'ont le spectacle, parce qu'il y est malgré tout, le championnat anglais est excitant, il y a un certain, on ne sait pas qui sera champion cette année, on ne savait pas la saison passée. Il y a du spectacle, mais les grands joueurs ne viennent toujours pas. Il y en a quelques-uns qui viennent.
C'est pas sympa pour Alexandre Lacazette. Hein.
Non, mais bien sûr. Mais je pense que si l'Atlético, il n'y a pas le problème de transfert, il ne serait pas à Arsenal aujourd'hui. Donc c'est quand même aussi un souci. Mmh.
Quels sont les grands joueurs qui sont allés vers l'Angleterre? Alors cette année, vous disiez Carlos Bianchi, Bernardo Silva, qui est parti de Monaco vers
non,
Manchester.
Pas celui-là. Silva, David. L'Espagnol. C'était champion d'Europe et du monde, lui.
Bon, d'accord.
David. Ah non, j'ai pas parlé.
Ah, le vrai Silva, d'accord. Oui.
Qui sont arrivés cet été.
Je pensais pas celui-là de Monaco. Oui,
je me disais, mais pourquoi il n'est pas encore un grand joueur?
Non, l'autre, il était champion du monde, champion d'Europe, titulaire encore de la Coupe d'Espagne. Oui. Non, mais la question, c'est que peut-être que certains, ils disent qu'un championnat, c'est plus dur. Entre le championnat espagnol, l'italien et l'anglais, c'est plus facile l'espagnol, l'italien que l'anglais. Mm-hmm.
Mais il y a pas français, mal de Congolais en Angleterre, en revanche. Oui. Pas mal de Congolais en Angleterre. Hein. Des membres de la sélection congolaise, il y en a pas mal. Des joueurs du président Omari du Congo, ils ont choisi ces clubs.
Vous savez, l'Africain, c'est d'abord l'engagement physique. Hein. Donc, il s'adapte mieux dans ce championnat-là.
Oui, absolument.
Ensuite, il y a un élément aussi, c'est que sur le plan salarial, les équipes anglaises, par rapport à nos joueurs congolais qui évoluent en France, ils touchent mieux en Angleterre qu'en France. Mm-hmm. Donc, ils ont préféré la plupart s'expatrier. Et puis, il y a cette histoire des fiscs aussi. Hein. Il y a cette histoire des fiscs aussi.
C'est comme les joueurs français aussi. Ouais. Ils préfèrent s'en aller tout de suite de la France.
En tout cas, En tout cas, dans les transferts, on a eu donc Bernardo Silva, on a eu aussi Danilo, Mendy, Walker, tout ça c'est du côté de Manchester City. Mmh. Morata, Bakayoko, ouais, Rudiger du côté de Chelsea.
Ouais, mais est-ce que tout ça c'est des joueurs de grand calibre? Morata, on l'a toujours considéré quand même un degré moindre par rapport à tous les grands attaquants.
Mais ils sont payés cher tous ces joueurs.
Bien sûr. Mais ils sont payés cher parce qu'il y a aussi.
Mendy, il a coûté très cher.
Oui. Dis-moi, tu crois pas que tu peux faire une sélection de France titulaire avec les joueurs qui sont en Angleterre?
Ben,
facilement,
ouais,
peut-être
moins.
Oui.
Comment? Peut-être moins.
Moins, ouais. Je sais pas, hein.
Il y en a un peu moins.
Je sais pas. Un ou deux joueurs, hein.
Sur la défense, c'est pas mal, ouais.
Et le milieu de terrain.
Le gardien. Kanté, Pogba.
Comment s'appelle? Celui de Monaco qui est parti.
Bakayoko.
Bakayoko.
Et Mendy.
Mendy, Giroud, Lacazette.
Il peut pas être un titulaire.
Bien sûr.
Bruno, c'est un peu tôt pour le dire, mais il ne reste pas beaucoup de temps. C'est qui a fait le bon coup, selon vous? Quel club a trouvé le joueur qui va peut-être nous épater?
Celui qui s'est pour l'instant le mieux renforcé, ça reste Manchester City. Parce qu'ils avaient un énorme point faible, c'était les défenseurs latéraux. Mm-hmm. Et là, ils ont pris deux fusées, Kyle Walker de Tottenham, qui coûtait très cher, hein. Mm-hmm. Kyle Walker de Tottenham et Mendy de Monaco.
50.
Plus de 100 millions les deux joueurs.
50 et 57. Ah,
ouais.
50 et l'arrière droit, 57 et l'arrière gauche. Mais, et la réserve, c'est lui.
Oui.
Comment s'appelle le Real Madrid?
Danilo.
30. 137 millions. Et arrière centro.
C'était une des priorités de Guardiola. Tout son jeu est quasiment basé sur les latéraux, donc c'est hyper important.
Eh bien, on continuera à en parler demain de cette première ligue, puisque le coup d'envoi aura lieu demain. Parce que c'est déjà fini, Carlos. Merci beaucoup, Constant Marie, d'être resté dans cette deuxième partie pour parler plus tactique et joueur de football. J'espère que vous repasserez. Merci aussi à David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission, Pierre Guérin et Guillaume Munier à la réalisation.